Bonsoir à ceux que je n'ai pas salués. Voilà, ce soir, j'aimerais continuer sur le thème de la famille et j'aimerais vous parler d'une famille très, très, très compliquée. C'est la famille d'Abraham. S'il y a une famille qui est compliquée dans la Bible, c'est bien la famille d'Abraham. Quand on parle d'Abraham, on parle du père des croyants, ça nous semble remarquable, cet homme de foi. C'est vraiment le père des croyants, le fondateur de trois religions. Enfin, en réalité, il est fondateur de rien du tout, puisque fondateur de la religion juive, c'est Moïse. La religion chrétienne, c'est qui? C'est Jésus. Voilà. Et puis, bon, la religion musulmane, mais je ne m'en occupe pas trop ce soir. Voilà. Donc, Abraham, figure de proue, figure historique, une famille bien, bien compliquée. Alors, je vous amène déjà dans un premier texte qui sera mon introduction dans Genèse, chapitre 16, verset 11. Ah non, si je parle en vers. Tu vas avoir un fils. Tu l'appelleras Ismaël, car Dieu entend ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous et tous combattront contre lui. Il vivra seul à l'écart de tous ses semblables. Voilà. Vous imaginez qu'on vous annonce une telle promesse. J'imagine Marie-Valérie quand te signale cela. Tu vas avoir un enfant qui sera un âne sauvage. Voilà. Déjà, un âne, ce n'est pas très flatteur, mais en plus, sauvage, c'est assez impressionnant. Donc ce soir, j'aimerais vous parler sur la famille d'Abraham et particulièrement vous parler sur Ismaël. Alors, c'est vrai que dès le départ, il nous est parlé du caractère difficile d'Ismaël. Il sera comme un âne sauvage. Comme un âne sauvage. Alors, ce qui pose problème, c'est quand même le fait qu'il soit sauvage. Parce que bon, qu'il soit un âne, ce n'est pas forcément négatif. C'est notre société que l'on rejette un petit peu les ânes. Mais quand même, dans la Bible, le cheval, le mulet sans intelligence sont pires que l'âne. Et puis, il est demandé de nous méfier de l'autruche, du serpent. Il n'est pas trop parlé de l'âne. Au contraire, l'âne est vu comme étant un animal paisible. Mais là, un âne sauvage, et c'est vraiment le mot sauvage qui va poser problème. Un sauvage n'est pas dompté, il n'est pas maîtrisé, il vit loin de toute autorité, il vit sans aucune soumission. Voilà ce qu'on annonce à Abraham, tu auras un fils qui sera un insoumis, qui fera un petit peu n'importe quoi, il aurait pu faire la politique, d'ailleurs on aurait pu lui proposer un parti politique. Ce garçon qui va arriver va découvrir dans sa vie des tas de choses. Alors, je vais ce soir parler sur une première partie. Vous parlerez d'Ismaël avant sa naissance, tout ce qui est autour de lui, ce contexte de vie, Abraham, comment s'appelait sa femme, Sarah. Et puis, il y avait une servante qui s'appelait comment ? Agar. Voilà. Donc, on va voir un petit peu cette famille. Et on va voir que Ismaël, un jour, découvrira ce qu'est cette famille bien, bien compliquée. Alors, d'abord, la première chose qui me surprend, c'est qu'il a été conçu pour devenir un héritier. Un héritier. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est attendu avec amour. Vous savez, quand un couple a un enfant, fébrilement, on attend l'avenue de l'enfant en disant « super, il va arriver, tout le monde se réjouit, etc. » Là, il y a beaucoup de fébrilité certainement autour de sa naissance, mais surtout ce qui est un petit peu perturbant, c'est que ce garçon a été fait simplement pour être un héritier. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien pour devenir un héritier. Et peu à peu dans sa vie, il va découvrir qu'il y a des conséquences sur sa vie, sur le fait de devenir un héritier. Vous savez, quelles que soient les conditions dans lesquelles un enfant va venir, il a droit à l'amour de ses parents. Et Ismaël avait droit à l'amour de ses parents. D'ailleurs, Dieu va en donner un exemple. Il dira plus tard, en parlant d'Ismaël, « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » C'est curieux qu'il ait une promesse aussi fantastique sur sa vie, exactement comme le fils direct d'Abraham, qui aura un fils, et après qui aura deux petits-enfants, et qui aura combien d'arrière-petits-enfants, arrière-arrière, 12. Et on se rend compte qu'il y a déjà, dans la lignée d'Abraham, d'un côté, du côté Ismaël, comme du côté Isaac, qu'il y aura une promesse de 12 héritiers, de 12 princes, qui pour Israël, ce sera les 12 tribus. Ismaël se trouve, en plus, il va découvrir cela, il va réaliser qu'il est au centre d'une rivalité entre sa mère et qui ? Et Sarah. Une rivalité terrible. Les deux femmes vont s'empoigner et ça sera difficile parce qu'ils rentrent dans un conflit, ou plutôt, on en fait l'enjeu d'un conflit dans lequel il n'y est pour rien, un conflit qui n'est pas le sien et personne ne tiendra compte de ses propres intérêts. Moi, je trouve qu'il n'a pas de chance, ce gosse. Héritier d'Abraham, certes, mais dans une situation terrible, compliquée, qui malheureusement va le rendre malheureux et dont il va souffrir. À 13 ans, il va connaître un drame. Il y aura le drame de la circoncision. En général, la circoncision, ça se fait chez les tout-petits de quelques jours, là, à 13 ans. Un événement auquel il ne comprend rien. Je vous en reparlerai mardi prochain, certainement. Et pour lui, il a vécu comme étant un coup de couteau, comme une blessure qui lui sera imposée. Alors, essayons un petit peu de comprendre. Ce n'est pas qu'il soit désiré, mais il est né pour un rôle particulier. De plus, il se trouve au centre d'une rivalité. Il a un peu l'impression d'être l'enfant perdu de la famille. La circoncision qui va quelque part le malmener. Quand il y aura la naissance d'Isaac, que va-t-il se passer ? Est-ce que quelqu'un peut nous le dire ? Que va-t-il se passer à la naissance d'Isaac ? Il va être viré, ouais. Mais avant d'être viré, il va se trouver encore une fois au cœur d'un conflit. Parce qu'autant, avant que son petit frère Isaac ne naisse, il était là, bien considéré quelque part, puisqu'il était l'héritier d'Abraham. Et brusquement, avec la venue d'Isaac, il passe sur un second plan. Parce que le véritable héritier, c'est Isaac. Ce n'est pas Ismaël. Alors il va rire, il va se moquer, il va persécuter son petit frère, il a 13 ans de plus que lui, alors c'est très très facile. Et en final, il sera chassé et rejeté par son père Abraham, mais également par sa mère adoptive qui est Sarah. Alors je dirais que par son exemple, on voit que il a subi des blessures très graves dès sa naissance. Et ça me fait penser quand même à chacun d'entre nous. Parce que d'une certaine manière, on porte des casseroles, des difficultés rattachées à notre contexte de naissance, des parents qui ont fait souvent ce qu'ils ont pu. Et c'est vrai que chacun a son lot de blessures, plus ou moins grandes, plus ou moins violente, et Dieu nous donne à chacun la capacité de guérir de nos propres blessures. Et là où je rends grâce à Dieu, c'est qu'Ismaël a eu des chances de guérison, comme on le verra donc ce soir et mardi prochain, si le Seigneur le permet. Alors, il ne faut pas que nos blessures soient pour nous le moyen de nous réfugier. Vous savez, j'ai souffert, hein. Donc il ne faut pas trop m'embêter, j'ai souffert, j'ai été blessé, j'ai été meurtri. Il n'y a pas longtemps, j'entendais quelqu'un qui parlait de ces meurtrissures dans l'Église. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a deux personnes ensemble, elles vont se blesser mutuellement, elles vont se meurtrir mutuellement. Qui n'a jamais été blessé dans l'Église ? Qui ? Qui n'a jamais été blessé dans sa famille ? Qui n'a jamais été blessé dans ses amitiés, dans son entourage, dans ses amitiés, etc. C'est vrai qu'il y a des blessures qui existent, mais si chacun a son lot de blessures, souvent on ne voit que les nôtres, sans réaliser que d'autres sont blessés eux-mêmes et en ne les considérant pas, eh bien, on augmente la blessure de chacun. Tous ont des blessures, et Ismaël aussi, et elles ne doivent pas être un prétexte pour imposer aux autres nos mauvaises attitudes. On dit parfois « passé blessé, présent souffrant ». Et je crois que c'est une erreur. On ne peut pas se réfugier derrière nos blessures. Je pense que Ismaël, comme Isaac, comme Abraham, comme Sarah, eh bien, leur nature était tournée vers le péché. Et malheureusement, le péché explique beaucoup de choses dans nos vies, dans nos attitudes les uns par rapport aux autres. Et ne nous enfermons pas dans ce qu'on pourrait appeler des blessures, des meurtrissures. Regardons quand même là où nous avons besoin de l'aide de Dieu, et Dieu veut nous aider. Et puis, peut-être pour terminer ce premier volet là, sur le caractère d'Ismaël, dans l'Exode chapitre 13, verset 13, il y a un texte qui m'a toujours un petit peu fasciné. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né d'un âne. Si Ismaël est un âne sauvage, il y a aussi pour lui possibilité d'un rachat par un agneau. Moi, je pense à un agneau qui a été donné pour chacun de nous. Et même si quelquefois nous nous comportons comme des ânes, excusez-moi le terme, comme des sauvages, excusez-moi le terme, ou des âmes sauvages, eh bien, nous avons un agneau qui est là pour nous racheter. Amen. Et en fait, il y avait dans la vie d'Ismaël, comme une promesse divine, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. J'aimerais arriver sur une autre pensée maintenant et réfléchir un petit peu aux conditions difficiles dans lesquelles Ismaël a été conçu, où vous parlez des causes de défaillance d'Abraham et de Sarah. Alors, ne vous inquiétez pas, je parlerai d'Abraham, de Sarah, de Sarai. Je les mélange tous, de toute façon, ce sont les mêmes. Et par commodité, je les appelle l'un Abraham, l'autre Sarah. Sarah dit à son mari, son mari s'appelle Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. » Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il ait habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Là, on voit la conclusion de cette histoire quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ça avait l'air d'être une flèche, excusez-moi, hein, Agar. Ça avait l'air d'être une drôle de personnalité. Je me suis demandé d'où elle venait. Puis, je me suis souvenu que Abraham et Sarah avaient fait à un moment donné un séjour en Égypte. Vous vous en souvenez de ça ? Même que le pharaon de l'époque voulait shipper Sarah à Abraham. Vous vous rappelez cette histoire-là ? Qui était bien, bien compliquée. Et Abraham, très fièrement, disait « C'est ma sœur ». Il avait la trouille. La trouille. Alors, je ne sais pas comment je réagirais. Moi, si on essayait de me shipper Hélène, je dirais certainement pas « C'est ma sœur ». D'abord, on ne se ressemble pas du tout. Je ne dirais pas « C'est ma sœur, c'est ma femme ». Mais comme il avait la trouille, eh bien, il disait « C'est ma sœur ». Et puis, donc, certainement que dans ce voyage, dans ce pèlerinage, si je puis dire, eh bien, ils avaient ramené une esclave, Agar, l'égyptienne, la servante, l'esclave de Sarah. Alors déjà, on se trouve devant une erreur commise par le couple. Comme ils n'ont pas d'enfant, Sarah va dire, bah, écoute, prends donc Agar, ma servante, tu vas vers elle et puis tu vas avoir, elle va avoir un enfant, parce que moi je suis stérile. Et puis l'enfant, ce sera le nôtre. Mais c'est une erreur profonde. Dieu avait dit à Abraham, tu auras un héritier. Oui, mais mon héritier, n'est-ce pas mon serviteur Eliezer qui est depuis longtemps dans ma maison? Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il y a un enfant qui naîtra de tes entrailles. Tu auras un enfant, il sera ton héritier. Alors, pourquoi passer outre l'ordre de Dieu et mettre en place une stratégie, prendre un raccourci pour avoir cet enfant? Alors, bien sûr, j'imagine que ça choque votre morale. En tout cas, ça choquait la mienne. Parce que bon, on n'est pas trop habitué à ça. D'autant plus que la demande vient de Sarah elle-même. En gros, elle dit à son mari, ben, t'as qu'à me tromper avec ma servante et puis on va avoir un enfant ensemble. Tu ferais ça, pas comme toi? Non. Moi, je ne ferais pas ça non plus. Ça, j'avoue que je suis décontenancé. Comment? Quatre. Bientôt cinq. Alors, bien sûr, ça choque notre morale et ça se passait en Mésopotamie, cette coutume qui existait, avant qu'ils quittent leur pays pour aller vers le pays que Dieu leur montrait. Avant qu'ils partent de la Mésopotamie, c'est une pratique qui existait, en tout cas lorsqu'il y avait la stérilité de l'épouse. Vous savez, notre société a des coutumes, des fonctionnements. Alors, on n'est pas là pour lutter contre les fonctionnements de notre société, mais il est certain que parfois ça pose des problèmes d'ordre éthique, d'ordre moral. Et on n'est pas là pour rentrer en guerre ou partir en croisade contre les problèmes de notre société. D'abord, à mon avis, on aurait beaucoup de travail. Mais ce n'est pas parce qu'on ne part pas en guerre ou que c'est là les lois de notre pays ou les coutumes de notre pays qu'on doit adhérer à cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je trouve qu'Abraham et Sarah se sont complètement, excusez-moi le terme, complètement planté. Des coutumes admises sans problème dans une société peuvent parfois poser des problèmes moraux, problèmes d'éthique aux chrétiens que nous sommes quand on veut marcher dans les voies de Dieu. D'autre part, va apparaître une situation de situation. Et notons une notion de tentation. Notons que la tentation est venue de la personne qui était la plus proche d'Abraham. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça? Ça vous rappelle quoi, tiens? Je vais voir si vous suivez. Ça vous rappelle quoi? Adam et Ève. La femme que tu as mise là, à côté de moi, m'en a donné, j'en ai mangé. La femme que tu as mise là, à côté de moi, m'a dit de coucher avec sa servante. Et j'ai... Incroyable. On a du mal à comprendre. Alors, certainement que c'était bien, bien compliqué pour Sarah, mais Abraham va l'écouter. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Et il suivit le conseil de sa femme. Alors, messieurs qui êtes là, ne suivez pas toujours les conseils de votre femme. Il y a des moments où il vaut mieux pas les suivre, parce que dans ce cas-là, ça n'a pas été gagné. Et dans le jardin d'Éden, ça n'a pas été gagné non plus. Des fois, elles sont de bons conseils, mais des fois... Et ce qui est étonnant, c'est que non seulement elle lui suggère cela, mais lui va l'écouter. Alors, c'est certain que cette tentation qui est arrivée là, cette suggestion, est due à une frustration, une souffrance qui est dans le cœur, dans la vie de ces gens. Et on peut les comprendre. Et moi, je crois qu'on doit comprendre ceux qui passent par des moments difficiles, qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont telle ou telle préoccupation, tel ou tel problème. Bien sûr, des souffrances, des frustrations, même si on les comprend, ne vont pas tout excuser. Alors, il est vrai que dans le contexte de cette époque, ne pas avoir d'enfants et surtout ne pas avoir de fils, c'était un véritable opprobre, c'était terrible, c'était même une malédiction. Hein, pour les gens de l'époque, c'était épouvantable. Et en même temps, pour Abraham, il y avait une espèce d'incohérence. Dieu lui dit, mais tu vas avoir un héritier. Et les années passent. Parce que quand les événements vont se passer, quand on va vivre ces événements, Abraham, savez-vous quel âge il a? Il a 86 ans. C'est un jeune homme. 86 ans. Alors, je ne sais pas quel âge a Agar, mais lui, il a 86 ans. Alors, je comprends qu'il y ait une frustration. Sarah est elle-même profondément en souffrance par rapport à ça. C'est extrêmement difficile. D'autant plus qu'il y a comme une incohérence spirituelle. Tu vas avoir un héritier. Et les années passent, et les années passent, et les années passent. Non, mais t'inquiète, hein, ça va venir. Tu vas avoir un héritier. Ah ben, écoute, il y a Eliezer, mon serviteur, pourquoi pas? Non, c'est pas lui. Un héritier va venir de toi. D'accord. Et puis les années passent. 80, 81 ans, 82, 85, 86 ans, toujours rien. Quelque part, on comprend leur impatience. Mais la frustration, l'impatience ne justifie pas tout et notamment ne justifie pas la désobéissance. La frustration était donc à la fois humaine et spirituelle. Je ferai de toi une grande nation. Elle est où la nation là? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Depuis le chapitre 12, on en parle. Là, on est au chapitre 16. Depuis le chapitre 12, depuis 5 chapitres, on en parle. Et il n'y a rien. C'est une frustration qui est à la fois humaine et spirituelle. Alors, les paroles prononcées par le patriarche expriment son désarroi. Par exemple, chapitre 15, il dira « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et puis, chapitre 16, « Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui naît dans ma maison sera mon héritier. » On a l'impression qu'il est en train de reprocher à Dieu. on n'a pas de reproche à faire à Dieu. Si Dieu nous fait une promesse, croyons à la réalité de cette promesse. Et quand Abraham avait envisagé qu'Élisère soit son héritier, Dieu avait renouvelé sa promesse. Alors la parole... Non, c'est peut-être pas là encore. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors Abraham va répondre par la foi à cette parole. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et là, il a confiance. Mais le temps passe et rien ne se passe. Sarah va partager son sentiment, elle va s'en prendre à Dieu comme étant le responsable de la situation. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Croyez-vous que tous nos problèmes soient le fait de Dieu ? Facile de dire ça. C'est la faute de Dieu. Donc si Dieu se plante, il faut que moi je le corrige. Et puisque Dieu s'est trompé, eh bien je vais agir à sa place. Et puisque Dieu s'est trompé, d'ailleurs pourquoi il a permis que je marie avec Sarah ? J'aurais dû me marier avec Agar, tiens, si j'ai su. Rendez compte un petit peu, là, jusqu'où peut aller ce raisonnement. Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Et Abraham suivit le conseil de sa femme. Ces mots trahissent bien son état d'esprit. Dieu m'a empêché. Dieu ne m'a pas donné. L'Éternel m'a rendu stérile. Et on a l'impression que c'est un refrain qu'elle est en train de chanter constamment dans son esprit et qui l'afflige et qui est en train de la faire souffrir. Alors, cela a forcément des conséquences. Et je les ai appelées les défaillances de la foi, la manifestation de la défaillance de la foi. La première conséquence, c'est l'impatience. Ce qui m'étonne, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous connaissez le texte, relisez chapitre 16, ce qui m'étonne, on n'a pas l'impression qu'ils vont prier. Ils prennent des décisions, ils se plaignent, ils réfléchissent, mais à aucun moment, on ne lit que Sarah va s'incliner et va prier. On n'a pas l'impression que le couple se retrouve pour prier. Je trouve que c'est important de prier quand on a des moments de difficulté, et notamment de prier en couple. Avec Hélène, on prie tous les jours. Savez-vous qu'on prie pour vous tous les jours ? Ça vous fait plaisir, j'espère. On prie pour nos enfants tous les jours. On prie pour nos familles tous les jours. Mais pour nous, ça fait partie quelque chose qui est normal. Quand il y a une difficulté chez l'un d'entre vous, quel qu'il soit, eh bien, on va prier pour vous. Et puis, alors, en plus, chez les sœurs, là, vous prenez chacune une personne pour laquelle vous priez. Donc, Hélène, ce mois-ci, tu pries pour Denise. Il faut qu'on mette ça en place, nous, les gars. Parce que les filles, elles ont des trucs intelligents. Nous, on est beaucoup moins. Comment ? Il faut que j'écoute Hélène. Ouais, tu l'as dit à ton mari. Voilà, donc messieurs, prenez des bonnes idées auprès de vos femmes. Apprenez, écoutez-vous. On n'a pas l'impression qu'il y ait de la prière ou de la consultation de Dieu. Et peut-être ça explique beaucoup, beaucoup de choses. J'ai le sentiment que le charnel va l'emporter sur le spirituel. Et quand le temps passe et qu'on a l'impression que Dieu ne fait rien, il est tentant de vouloir l'aider. Et ce qu'ils ont fait ? On va donner un petit coup de main au Seigneur. Il en a peut-être bien, bien besoin. Peut-être que vous pensez à ce verset biblique, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Savez-vous où il est ? Mais je vais vous faire de la peine, mais il n'existe pas. aide-toi et le ciel t'aidera. Agar, viens là, on a un plan pour toi. Puisque Dieu n'est pas capable de faire, nous on va faire et puis le ciel, il me semble écouter lire Don Juan là, le ciel, vous dis-je, le ciel t'aidera. Ce n'est pas biblique. Vous savez, parfois nous les chrétiens, on attend passivement que Dieu intervienne. Seigneur, tu vas tout faire. Mais alors, d'autres fois, on est un peu plus compliqué parce qu'on veut l'aider. Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure attitude. Ne rien faire ou laisser faire ou plutôt faire à la place de Dieu. À mon avis, les deux, c'est se planter. Parce que prier, ce n'est pas rien faire. Alors, premièrement, dans cette défaillance de la foi, il y a de l'impatience. Deuxièmement, il y a une conformité au monde. Je vous disais que cette proposition de Sarah vient de la culture mésopotamienne. Jésus nous a dit de faire attention. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? La tradition est une belle chose, mais parfois elle a un goût de poussière. Et c'est à nous de faire attention et de ne pas mélanger les choses de Dieu et les choses de ce monde. Cette pratique, bien qu'elle semblait très, très bien, hein, de la société de la Mésopotamie, malgré son aspect légal, était une forme d'adultère. Alors, bon, moi, je ne vais pas rentrer en guerre contre des traditions de pays, mais quand j'entends que dans un pays, il y a la polygamie, excusez-moi, la polygamie, c'est un adultère légal. Quand j'apprends qu'un vieil homme se marie avec un enfant, c'est de là, vous l'appelez comment ça? C'est de la pédophilie légale. Mais ce qui est légal n'est pas forcément moral, n'est pas forcément une bonne chose. Et cette pratique faisait de la servante un objet et non pas une femme respectable. Mais écoute, j'arrive pas à avoir d'enfant, alors ben, il y a ma servante qui est là, c'est une égyptienne, c'est mon esclave, donc elle est obligée d'obéir. Ben, voilà, tu vas vers elle, puis tu verras, on va avoir un enfant. Mais il n'y a aucune considération pour la personne. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'abject dans la manière de traiter Agar. Alors Sarah, et vous avez vu comme la Bible insiste, alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à son mari. Aucun respect de la personne. On doit vivre dans la légalité, certes, mais tout ce qui est légal n'est pas obligatoire moral et selon l'éthique de la parole de Dieu. Et ce qui me surprend, et je reviens là-dessus, c'est la faiblesse d'Abraham. Il aurait pu dire maintenant, Sarah, ma princesse, puisque ça veut dire princesse, Sarah, ma princesse. Mais on a quitté la Mésopotamie. La Mésopotamie n'a plus rien à voir avec nous. Il aurait pu dire, non, mais ça ne va pas à la tête. Je comprends ton désir d'enfant, mais moi, je ne veux pas faire n'importe quoi. Moi, je ne veux pas prendre cette femme pour deuxième épouse. Il aurait pu avoir des tas d'arguments et dire, entre autres, la Mésopotamie, c'est loin. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille pour le pays que je te montrerai. Et il était parti, il avait tourné le dos, il était parti vers un autre pays pour suivre l'Éternel qu'il appelait donc, et qu'il voulait suivre. Il n'en a rien fait, il a plutôt écouté le conseil qui lui a été donné, ce qui lui a permis d'aller vers la servante et son époux, qui est devenue son épouse, avec une sorte de légitimité. Et là, il se donne une bonne conscience. Et il y a un résultat à cela. Et le résultat, c'est quoi ? 9 mois plus tard, un petit bonhomme. La servante va tomber enceinte. Vous savez, il ne faut pas imputer à Dieu nos propres actions, ni le rendre responsable de tout ce qui arrive, je vous disais tout à l'heure. C'est bien souvent le résultat de nos choix. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a comme une apparence de la confirmation de leur décision. Agar devint enceinte. Ça veut dire que Dieu nous a bénis. Ben oui, mettez-vous à leur place. Vous auriez raisonné comment ? Avec ma femme, ça ne marche pas. Agar qui est là, bon, ce n'était pas forcément une mocheté, Agar. Hein. Agar, elle est là. Et puis, on va avoir un enfant. Et Abraham, jeune papa de 86 ans, est tout content à l'idée d'avoir un enfant. Et là, il se dit, elle est tombée enceinte si facilement, c'est bien la preuve que Dieu était d'accord. C'est bien la volonté de Dieu. On est léger parfois dans la volonté de Dieu. On est parfois très léger. Ça me rappelle un petit peu cela. Vous vous rappelez quand Jonas, Dieu l'envoie ben justement vers la Mésopotamie, il est en Israël, Dieu lui dit, tu vas aller vers l'Est, là-bas, vers l'Est, et tu vas aller leur parler. Il lui allait où, vous rappelez, c'était à Ninive, hein, la capitale des Assyriens. Tu vas aller vers l'Est. Alors, vous imaginez un peu, Ninive, c'est la capitale des Assyriens. Les Assyriens, c'est une armée occupante, terrible, qui leur fait la guerre. C'est exactement comme si on disait aux Ukrainiens, ben, allez voir Poutine là-bas, vous allez lui parler du Seigneur. Ce serait compliqué. Ou si on disait au Premier ministre d'Israël, tu vas aller voir les gens du Hamas et tu vas leur dire, Dieu vous aime, Dieu vous sauve. Ce serait peut-être bien, bien compliqué. En tout cas, Jonas, quand Dieu lui dit, tu vas aller vers l'Est pour leur parler de Dieu, Jonas, il va vers où, lui ? Il va vers l'Ouest, vers Tarsis. Tarsis, c'est en Espagne, complètement à l'opposé de la direction de Dieu. Et il descend sur le port, et qu'est-ce qu'il trouve ? Un bateau qui est prêt à appareiller. Ça veut dire que Dieu est dans mes plans. Mais Dieu n'était pas dans le plan. D'ailleurs, Dieu l'a arrêté vite fait en faisant venir une grosse tempête et venir un poisson qu'il a avalé tout cru. Parce que Jonas, bien qu'il était désobéissant, était quand même appétissant, en tout cas pour les poissons. Ne faisons pas des déductions fausses basées sur des impressions confortant nos désirs pour qu'on les croit comme étant une réalité. Qui est responsable de ce qui arrive ? Est-ce que c'est Dieu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est Dieu le responsable ? Non, pas du tout. Un homme va vers une femme, la femme tombe enceinte, il n'y a rien de plus normal que ça. Et ça s'est passé ainsi. Tous les enfants sont conçus dans des conditions normales. Et je pense même à ce verset, je ne sais pas si je l'ai noté, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il a jeté sa semence et un homme est venu de cette semence. Alors, il y a des conséquences douloureuses. Parce que Agar s'est singularisée par une profonde insolence. Elle a commencé à être orgueilleuse, méprisante. Et Sarah a réagi avec irritation, prenant même Dieu à témoin. C'est fou, hein ? Elle met sa servante dans les bras de son mari et après elle dit, tu te rends compte comment elle est ma servante ? Elle oublie qu'elle était à l'origine de cette solution. Et puis elle va même rejeter la responsabilité sur Abraham. Vous allez voir ça. Tiens, quelqu'un peut nous le lire là avec une voix indignée ? Hélène, lis-nous ça avec une voix indignée. Elle est assez ingénieuse. Non, mais on ne regarde pas. Je suis pourri. Rendez compte un petit peu. Tu sais pas qu'elle a un peu de l'aplomb, Madame Sarah. Elle a de l'aplomb, elle est culottée. C'est la faute du mari. Tiens, c'est marrant, ça me ramène à nos lointains ancêtres. La femme que tu as mise à côté de moi, le serpent m'a séduite et je suis tombée dans le panneau. Et là, pareil, tu es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante, non mais dis une phrase de trop là, j'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle est enceinte, elle me maîtrise. Ben, c'est à Dieu d'agir. On est bien content quand même parfois qu'il y ait le Seigneur. On est bien content parce qu'il nous sort de situations bien, bien compliquées. Et moi, j'aime le père Abraham. On a un chant qui dit « Papa Abraham », je ne sais pas quoi là. Je crois que des fois, on devrait quand même réfléchir à ce qu'on chante. Parce que Abraham s'est lavé les mains de ce qui s'était passé. Et il a fui ses responsabilités. Et il va dire à Sarah, alors lisez-moi cette phrase, « Ta servante est à ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. Comme bon te semblera. » Alors Sarah la traita si durement que celle-ci s'enfuit. Il a quand même l'art et la manière de jouer les Ponce Pilate. Et je trouve que dans la fuite de ses responsabilités, c'est marrant, Abraham est en train de descendre dans mon esprit. Là. Attends, en Égypte, quand on parle de sa femme, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Et puis là, prends tes responsabilités. Après tout, c'est ta servante. Et effectivement, elle va prendre ses responsabilités. Et la pauvre servante, qui n'a pas l'air d'être très, très fut-fut, elle va commencer à être humiliée et être malheureuse. Moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu est venu à sa rescousse. Il est venu pour la protéger. Il est venu à la rescousse aussi de l'enfant qu'elle portait. Et Dieu va se rendre au secours d'Agar. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près d'une source. Il dit, « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. » Vous mettez un petit peu à la place cette femme qui est là, qui est en route vers le désert, sur le chemin de Chour. Je ne l'ai pas mis sur mes notes, mais c'était chemin de Chour. D'où viens-tu ? Où vas-tu ? C'est un drame. La Bible, c'est extraordinaire, ne nous cache pas les drames. Elle n'enjolive pas les situations. Mais elle nous montre qu'il y a des situations humaines que nous pouvons connaître encore au XXIe siècle dans notre société, avec des drames épouvantables, avec des choses difficiles pour les uns, pour les autres, où des gens sont maltraités, où des enfants sont maltraités, tout simplement à cause de l'inconséquence des adultes. Alors, Dieu va donner des consignes à cette femme, un chemin d'humiliation, un chemin de soumission. Et nous sommes appelés à nous soumettre même à une autorité qui nous semble injuste. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est dur, hein ? C'est dur, hein ? Moi, je n'aurais pas forcément envie d'entendre ça. Tu vois comme je souffre à cause de Sarah, ma servante. Tu vois, elle me précipite dans les bras de son mari, puis après, elle me le reproche. J'obéis. Bon, j'ai un peu rigolé, d'accord, j'aurais peut-être pas dû. J'étais un peu orgueilleuse, mais bon, j'ai tellement souffert dans ma vie. C'est normal que j'ai un petit peu Donc, je suis une esclave, on m'a enlevée loin de mon pays, je travaille avec auprès d'une bonne femme, c'est une mégère, etc. Non, tu vas t'humilier sous sa main. Retourne vers ta maîtresse. Et dans le secours que Dieu va apporter, des promesses seront faites pour Ismaël et à sa postérité. Et quand même, des avertissements seront donnés par rapport à son caractère. On va lire ça ensemble. Je multiplierai ta postérité. Ça, c'est donné à Agar. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de ses frères. C'est dur comme promesse. C'est dur, compliqué. Mais Dieu ne va pas apporter du vernis dans ce qu'il va dire. Il va dire la réalité et Agar va entendre cette réalité. Agar a eu ainsi l'occasion de faire une expérience avec Dieu. Alors, une famille compliquée, Abraham, un courageux qui fuit ses responsabilités, Sarah, une frustrée du fait de ne pas avoir d'enfant, du fait de voir que les années passent, elle vieillit. Agar, bon, j'ai l'impression que c'est une petite cervelle qui malheureusement n'a pas beaucoup de réflexion, qui va se moquer, un peu orgueilleux sur les bords. Et puis là, un gosse, Ismaël, qui arrive dans ce contexte. On continuera son histoire mardi prochain. Mais en tout cas, avant de terminer, j'aimerais simplement vous dire ceci. Agar va avoir l'occasion de faire une expérience avec Dieu. Et voilà ce qu'elle va dire. Ai-je réellement vu ici même le Seigneur qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atal El Roi, c'est-à-dire c'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits Be'er Lachai Roi, le puits du vivant qui me voit. C'est un puits, un vague puits. C'est là qu'Isaac sera quand Rebecca, son épouse, viendra. Ça sera un lieu de rendez-vous. Ça sera un lieu de contact. Un lieu où Dieu est apparu à une servante paumée, petite tête, sans grande signification, sans grande envergure, mais une femme qui sera fondatrice d'une grande nation. Il sortira 12 princes d'elle-même. À partir d'elle-même avec Ismaël. Alors je crois que Dieu ne désespère jamais de nous, de nos familles. Des fois on pourrait se dire ma famille c'est compliqué, comment on va s'en sortir, etc. On a un Dieu. Et moi je vous propose que l'on s'approche de ce Dieu au puits de la. Alors on retrouve le Chaïroï, le puits du Dieu vivant qui me voit. Non seulement Dieu est vivant, mais en plus il me voit, il connaît ma situation, il connaît mes angoisses, mes frustrations, mes péchés, peut-être mon désespoir. Dieu l'a vu et Dieu a apporté des solutions pour elle. La suite, mardi prochain. On s'incline, si vous le voulez bien, et l'on prie maintenant en invoquant le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu ne nous caches pas la réalité des choses dans ta parole. Tu demandes, Seigneur, ces hommes, ces femmes, comme tu le déclares, des gens de la même nature que nous. Tu vois les lâchetés d'Abraham, Seigneur, comme il manque de caractère même parfois. Tu vois, Seigneur, les intrigues de Sarah. Tu vois tout ce qui est aussi tordu dans le cœur d'Agar. Puis tu vois un enfant. Un enfant qui est dans cette famille, qui sera au cœur de cette famille, cet enfant, qui arrive avec un lourd bagage, mais que déjà tu vois, parce que tu vois la mer et tu vois ce qu'il y a au sein d'elle-même. Tu vois Ismaël. Je te rends grâce, Seigneur, parce que parfois nous pourrions désespérer de nos situations, de nos familles. Peut-être parfois serions-nous frustrés et mettons-nous cela en avant en nous disant peut-être qu'on ne s'en sortira jamais. Mais nous voulons te dire que tu es l'Éternel qui nous voit. Alléluia. Tu es l'Éternel vers lequel nous nous approchons. Tu es celui sur lequel nous pouvons compter, celui à qui nous pouvons demander de l'aide. Et ce soir, je te prie pour nous tous qui sommes là, afin, Seigneur, que tu poses tes mains dans nos situations et que tu nous accordes la bénédiction dont nous avons besoin. Seigneur, je veux te prier pour toute notre assemblée, pour chacune des composantes de l'Église, afin que chacun soit au bénéfice de ta grâce et qu'il soit béni par toi. Parfois, on pourrait même douter pour l'un ou pour l'autre en se disant que se passera-t-il dans cette famille. Mais Seigneur, nous voulons apprendre à compter sur toi, pour les uns, pour les autres, pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.